me permets une petite incursion dans cet épisode pour vous parler de mon prochain Weekend Mastermind les 15 et 16 juin prochains. Mon Weekend Mastermind, c'est quoi? C'est un événement unique en petit comité où je travaille avec une vingtaine de personal trainers, de propriétaires de studios, de box sur la croissance de leur business et l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site andypoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
Ce que tu dis là, c'est hyper intéressant parce que oui, on a envie d'apporter ça aux clients. Personnellement, par rapport à mes années de métier, bah, je sais que je peux peut-être apporter quelque chose sur l'aspect conseil physique ou conseil nutrition ou même mon expérience
de vie
ou comme ça. Mais après, est-ce que c'est vraiment mon rôle? Est-ce que je n'ai pas de nouveau trop donné aux clients, trop lui apporter d'intimité qui va finalement me coûter du temps sur ma vie privée? Et comment je me fais indemniser pour ça?
Voilà, ça nécessite de créer une offre spécifique par rapport à un problème ou un désir spécifique et créer un package, un accompagnement ou des choses comme ça. Mais c'est sûr que ça peut pas être. Enfin, c'est compliqué de mettre toutes ces choses dont tu viens de parler dans simplement un abonnement mensuel de classe de CrossFit, par exemple.
Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Eway, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter José Lara, owner de deux box CrossFit sur Lausanne en Suisse. José est quelqu'un d'hyper passionné. On a parlé de plein de choses intéressantes. Bien sûr, on a parlé de sa vision du CrossFit. On a parlé de comment créer deux box CrossFit. On a parlé de son modèle, quel type de programmation il y a à l'intérieur de ses box, quel service, quel produit complémentaire, comment il gère au quotidien l'humain. On a parlé bien sûr aussi de la récupération mentale du chef d'entreprise. Bref, on a parlé de beaucoup de choses. Donc je vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec José.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec José. Salut José.
Salut.
Petite question pour se chauffer. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas?
Ouais, on va aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur moi, mais José Lara, j'ai 49 ans. J'ai ouvert CrossFit Lausanne, le premier centre d'une surface environ 600 mètres carrés il y a 8 ans déjà. Ouais. Et la deuxième surface qui est située au cœur de la ville cette fois-ci, l'autre dernière en bordure de ville. J'ai eu la bonne idée de l'ouvrir deux semaines avant le fameux Covid.
ok. Bon, on reviendra dessus. Le José tout petit, c'était qui?
José tout petit, c'était quelqu'un de dans son monde, quelqu'un d'assez solitaire, de par la vie de famille, et puis quelqu'un qui aimait le sport, qui avait, alors ça peut paraître bizarre, qui avait pas beaucoup le droit de faire du sport, donc okay. On le faisait un peu en cachette, voilà, et puis José qui se débrouillait un peu tout seul, quoi, parce que pas le choix, voilà.
ok, et comment tu t'es construit par rapport à ça, et comment du coup tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui?
Bah, je pense que dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours fait les choses avec passion, avec détermination. J'ai toujours travaillé en écoutant mon cœur, en étant entier, en étant loyal. Et puis les choses se sont présentées un petit peu comme ça. C'est un parcours assez atypique, hein. Je veux dire, j'étais pas destiné à être dans le sport au départ, même si c'était mon rêve premier. J'ai très très tôt été papa. Je pense que indirectement la volonté de vouloir créer ce que j'avais peut-être pas eu, voilà. Donc c'était peut-être un peu trop tôt pour être papa, mais je le regrette pas parce que j'ai deux belles filles, une de 26, une de 22, dont la grande de 26 qui m'a donné un petit-fils il y a pas longtemps. Donc je dirais que. Voilà, j'étais papa à 22 ans, donc il a fallu très rapidement amener de l'argent à la maison, donc se mettre dans la vie active. Donc parcours professionnel, d'abord électricien bâtiment, puis mécanicien de machine, puis employé de commerce, travail dans les assurances. Et puis c'est vrai, quand j'étais avec la mère maison au tout début, j'avais un projet de racheter un fitness déjà. Donc ce projet, il était déjà là à peine 20 ans. À 20 ans, et malheureusement. Et
comment tu expliques cette envie du fitness? C'est quoi qui t'a plu dans le fitness?
Ben en fait, c'était l'opportunité qui se présentait, passionné de sport. Et puis j'ai toujours été quelqu'un qui aime transmettre, en fait. On va dire ça, j'aime le transmettre. Ma philosophie, elle est la suivante, c'est-à-dire que si je partage mon gâteau, j'aurai des parents moins. Par contre, si je partage mes connaissances, j'en ai jamais en moins. Et puis, je me suis toujours dit, j'aime l'humain d'une manière générale. Et puis, apporter des choses à l'humain, pas uniquement physique, mais aussi sur l'aspect relationnel, sur l'aspect contact, etc. Et tout, c'est des choses qui, des valeurs pour moi, qui sont relativement importantes.
Okay.
Donc voilà. Et l'affaire du fitness, c'est pas faite pour une petite somme, et puis du coup je suis parti après dans les assurances, puis après j'ai même eu un bar à un moment donné aussi, donc de nouveaux contacts avec les gens, et puis après l'immobilier qui m'a permis aussi de découvrir d'autres choses, et puis le sport était toujours en parallèle, c'est-à-dire que quand je travaillais dans l'immobilier, en parallèle de ça, je multipliais les jobs, c'est-à-dire que quand j'ai divorcé, en fait, j'ai une situation de vie privée très compliquée, c'est-à-dire que j'ai même dormi dans ma voiture, quoi, voilà, c'était compliqué, donc il a fallu tout remonter, et puis j'ai cumulé les jobs dans l'immobilier, alors personne ne comprenait, parce que j'avais un poste de responsable dans l'immobilier avec des revenus qui étaient intéressants, mais ils servaient à rembourser le passif que j'ai pu tout rembourser. Et puis à côté de ça, je donnais encore des cours de sport le soir, plus encore de la sécurité en boîte de nuit le week-end. Donc voilà, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Je me suis toujours consacré au travail. Et voilà, donc c'est ça. Et puis dans l'immobilier, pour la faire courte, c'est qu'à un moment donné, j'avais fait un peu le tour des choses. J'avais un poste de direction où je ne faisais plus vraiment le métier que j'aimais. Je faisais plus du management. Et puis ma fille aînée, elle avait à cette époque-là, elle avait 17-18 ans, un soir m'appelle et me dit « ça va papoune ?» Je lui dis « écoute, ça va, quoi, je suis un peu épuisé. » Et puis elle me dit « c'est normal, le matin tu te lèves de bonne heure pour l'immobilier, le soir tu vas donner des cours de sport, le week-end tu fais encore de la sécurité. » Elle me dit « les théories que tu nous fais à ma sœur et à moi, dans la vie il faut faire ce qu'on aime, est-ce qu'elles sont valables pour tout le monde sauf pour toi ?» Elle m'a mis un peu un uppercut, et puis du coup je lui dis « écoute, oui, mais il faut bien payer vos études, il faut bien gagner sa vie et tout. » Puis elle me dit « mais c'est quoi qui te ferait plaisir ?» Puis je lui dis « écoute, là j'ai découvert le CrossFit depuis quelques années, c'est vraiment une méthodologie, une approche qui me plaît énormément. » Et elle me dit « feu !» Et c'est vrai qu'elle m'a donné un peu ce déclencheur qui m'a permis de presque tout envoyer bouler, enfin de tout envoyer bouler du jour au lendemain, de me retrouver carrément au chômage. Parce que en Suisse, le chômage, on peut encore s'en sortir, j'arrive à compléter mes salaires, le temps que je trouve des locaux, ça m'a mis une année, quelques mois. Et puis c'est là qu'a démarré l'aventure CrossFit, parce que j'avais été un peu affranchi par ma fille, quoi. Donc,
excellent, excellent. Et justement, là, quand on commence à vouloir justement développer, soit un fitness, une box, un studio, enfin voilà, il y a la recherche de local. Ça a été compliqué de trouver un local qui correspondait à ta philosophie, à comment tu voyais le business?
Oui, ça a été compliqué parce que en plus, j'étais déjà dans l'immobilier, donc ça me permettait d'assez vite visionner ce que je voulais me projeter, notamment dans démolition ou voilà. Et puis, je suis un idéaliste, donc j'aime bien que les choses soient bien faites, j'aime bien que les choses soient carrées. Et puis c'est vrai que cet idéalisme m'a poussé, mais en même temps, étonnamment dans ma vie, j'ai dû toujours me battre pour beaucoup beaucoup de choses. Et puis là, les choses. J'ai fait ce qu'il fallait sans me battre outre mesure et ça s'est fait. Donc, je pense que que c'était clairement ce à quoi j'étais destiné, quoi, je pense, effectivement, quoi.
Et comment s'est passé, du coup, ça a été quoi un peu l'investissement de départ? Tu as démarré, enfin, ton centre faisait combien en termes de superficie? C'était quoi un petit peu
l'actuel? Ouais, c'est l'actuel centre que j'ai qui représente environ pas loin de 600 mètres carrés. Maintenant, un petit peu moins parce qu'on a diminué de la surface. C'est un beau centre parce qu'on a 6 mètres de plafond. On a vraiment beaucoup de luminosité, etc. On peut dropper parce que c'est une zone industrielle, donc on peut lâcher les poids. Donc ouais, c'était vraiment une belle surface. Et puis que j'ai agrandi par la suite, que finalement je suis revenu en arrière après quand j'ai ouvert le centre, enfin, en fonction du Covid, etc. et tout, qui a un peu changé la donne. Mais ouais, c'était une aventure parce qu'on a démarré. J'ai démarré avec un associé au départ. Un ami et puis à un moment donné on a décidé d'arrêter l'association parce que pour sauvegarder notre amitié, donc on est toujours amis, puis par contre on travaille plus ensemble, lui il est sur Bangkok maintenant, donc c'est pas plus mal. et c'est vrai que l'investissement il était quand même un joli montant au début, mais bon, c'était mes économies. Je pense que dans la vie, quand on est convaincu de quelque chose, quand on a la passion, qu'on y croit, qu'on a confiance, il faut le faire, quoi. Il faut y aller, et moi j'ai pas tant réfléchi que ça, finalement, j'y suis allé au feeling, et puis les étoiles se sont alignées.
Je crois que tu étais un des premiers sur Lausanne, si ce n'est le premier.
Ouais, je dirais non, pas le premier, parce qu'il y avait. On n'est pas. Alors, moi, j'ai de la chance sur Lausanne, on n'est pas énormément, donc il y a à manger pour tout le monde. Mais c'est vrai que j'étais au tout début, il y avait un tout petit qui mélange boxe et crossfit, donc il n'était pas axé 100% crossfit. Et puis après, il y a JSC qui a dû ouvrir plus ou moins en même temps que moi, ou peu de temps après, ou je sais pas, c'est pas. Voilà, mais c'est vrai qu'on est assez tranquille sur le marché. Et puis ma chance, c'est que j'ai obtenu, vraiment, c'était inattendu, le nom CrossFit Lausanne, quoi. Donc c'est clair que ça, c'était un petit cadeau aussi qui prouvait que ça devait se faire.
Excellent. Et après toutes ces années, c'est quoi ta philosophie par rapport à CrossFit et par rapport aux structures que tu as mis en place?
La philosophie, je dirais, sur un plan, sur la méthodologie CrossFit, je dirais que c'est rentré dans les mœurs. C'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup d'adhérents qui me téléphonaient, je dois faire combien d'années de fitness avant de pouvoir commencer le CrossFit. Donc, il fallait convaincre beaucoup de monde. Il fallait avoir un peu ce rôle de précurseur, d'expliquer. C'est vrai qu'aussi, CrossFit au niveau mondial avait cette communication d'élite fitness, donc qui n'était peut-être pas la meilleure. Donc, c'est vrai que ça favorisait un peu l'élitisme. Moi, c'est quelque chose au niveau philosophique que j'ai vraiment voulu développer parce que avant, je m'entraînais dans un autre CrossFit et c'est vrai que dans l'autre CrossFit, il y avait un bon niveau, on va dire, de coaching et d'athlètes. Et des fois, ce bon niveau de coaching d'athlètes donnait un peu une forme d'élitisme et puis des fois peut-être une petite forme d'arrogance. Et puis c'est vrai que moi, j'ai dit, c'est tout ce que je veux pas. On sait qu'il y a certaines boxes de CrossFit qui sont plus axées compétition. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu avoir quelque chose un peu à mon image, plein de bienveillance et tout. Et c'est vrai que je pense sans prétention, mais c'est ce que les adhérents disent de notre centre, qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, qu'il y a beaucoup qu'on place l'humain, que oui, et on s'entraîne, mais à côté de ça, il y a des valeurs humaines que je défends et que je défendrai toujours, parce que je pense que on a tous à apprendre les uns des autres, on a tous peut-être dans ce monde de plus en plus individualisé, dans un monde où on like, où on swap des gens, où on peut que ça soit en amitié, en amour ou en affaires, on peut swapper quelqu'un du jour au lendemain, et puis comme on le fait sur un téléphone. Et je pense que le fait que pendant un moment, en tout cas une heure, on s'entraîne où il n'y a pas les téléphones qui interagissent, où on doit se parler, on doit se féliciter, on doit écouter, on doit moi je prends toujours un peu de temps pour parler avec les adhérents, donc c'est vraiment pour moi des valeurs qui sont vraiment importantes. Après, l'autre chose au niveau plutôt de l'aspect commercial, je dirais que sur l'avant-Covid, donc on va dire sur les 4-5 premières années, je fonctionnais au bouche à oreille. Voilà. C'était une box que je portais tout seul quelque part. Donc c'était va chez José ou va CrossFit Lausanne. Et ça marchait très bien. Souvent, je me faisais la réflexion à me dire, mais bon, t'as des formations. Moi-même, j'ai été formateur de vente, j'ai été directeur commercial. Donc j'ai toutes les bases, en fait, de. des outils marketing et je m'en voulais parce que finalement, j'ai jamais mis en place dans ma structure ce que j'ai mis en place quand j'étais employé pour mes patrons. Et c'est vrai que souvent, je me disais, je pouvais pas être au four, au moulin et puis tout faire. Et une fois qu'il y a eu cette étape de Covid, bah, c'est clair que là, il a fallu un peu prendre le taureau par les cornes. On disait, bon, maintenant, il faut être proactif, il faut faire du démarchage, il faut faire du marketing, il faut investir dans la pub. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau chez moi, où j'ai dit, bon, bah, maintenant, il faut vraiment mettre en place des stratégies marketing, il faut pousser, il faut qu'on parle de nous. Et je suis pas encore au bout de ce que je dois faire, mais c'est clair que bah voilà, c'est le problème l'entrepreneuriat pardon, où bah on est personnellement bah je vais pas dire je m'en veux parce que voilà, mais c'est vrai que au départ j'avais ouvert ma box juste pour dire bah ok bah je peux m'entraîner, je peux partager, j'ai du temps, je gagne ma vie correctement et puis ça me suffit, puis je vais plus devoir développer, puis à un moment donné bah les cours sont pleins, donc on se dit bon on a grandi. Ce que j'ai fait, donc j'ai agrandi. Donc voilà, on engage un coach, on engage deux coachs, on engage trois coachs. Après, ben, d'un coup, c'est plein, il y a une opportunité qui se présente aux vies en ville, donc on dit bon, ben, pourquoi la refuser ? Donc on ouvre, et puis d'un coup, on se retrouve à dire ben, je suis exactement dans le schéma de ce que je voulais plus à titre personnel, de devoir travailler énormément et puis d'être pris par plein d'activités et tout. Donc pour ma part, ben, j'ai un projet qui devrait aboutir, je croise les doigts sous peu, c'est de réunir les deux salles sous une seule au centre-ville. Un gros local, on est à bout touchant sur deux trois choses et là ça me permettra peut-être de recentrer un peu mieux, d'avoir tout sous le même toit, de pouvoir aussi, parce qu'on remarque qu'on a deux ambiances dans les salles, hein, je veux dire, c'est quand même voilà, donc d'essayer de regrouper tout ça, et puis de la gestion du personnel, la gestion des planning, la gestion marketing sera plus optimisée, quoi.
Ok, c'est intéressant. Plusieurs questions par rapport à tout ce que tu viens de nous partager. Est-ce qu'il y a déjà des grosses erreurs que tu as faites au démarrage en lançant ta box ? S'il y a des erreurs que tu as faites et que maintenant, avec l'expérience, tu ne referais plus ?
Mais honnêtement, non. Parce que pour moi, enfin ouais, déjà, dans la vie, je ne suis pas dans une erreur parce que on fait que d'apprendre. Donc, mais je n'ai pas une erreur qui me vient comme ça spontanément. Peut-être celle je dirais, mais ouais, après c'est difficile, c'est toujours une question de finance, mais c'est celle d'avoir mais c'est toujours un peu, c'est l'histoire de ma vie, je me suis toujours caché derrière le travail et puis peu de vie privée peut-être aussi, donc peut-être ça peut être l'erreur, mais c'est difficile aussi, quoi, je veux dire, mais je n'ai pas l'impression, non, d'avoir fait d'erreurs particulières, parce que bah, à chaque fois on réagit, on bondit, on avance. Voilà, on pourrait dire que l'ouverture de la deuxième salle à l'orée du Covid était une erreur, mais je ne pouvais pas deviner, je n'avais pas la boule de cristal. Donc voilà, mais en même temps, paradoxalement, une fois qu'on a fini le Covid, bah, c'est la nouvelle salle qui a failli me couler financièrement, parce que je suis passé tout près de ne pas pouvoir de pas pouvoir finir, quoi, voilà, à celle qui m'a remonté très très vite, quoi. Donc voilà. Après, je dirais ce qui est difficile au niveau management, je me rends compte parce que j'ai plusieurs coachs et puis bah, c'est dès le moment que tu as des coachs, tu as une philosophie, et puis cette philosophie, bah, elle n'est pas toujours transmise de la même manière. Donc je parle des coachs fixes parce que les coachs qui font quelques heures, bah, c'est des coachs qui sont depuis très longtemps avec moi, donc voilà. Mais c'est vrai que de trouver des coachs, j'en ai essayé plusieurs et puis on part sur la confiance, et puis le problème, c'est que je dirais au niveau management, j'ai c'est ça qui est peut-être difficile dans le milieu du CrossFit. Quand j'avais travaillé pour un groupe immobilier, lequel m'avait était venu me rechercher plus tard pour un poste de direction commerciale, et j'étais arrivé comme directeur commercial où on m'avait annoncé un peu comme le loup blanc, parce qu'il fallait vraiment le loup dans la bergerie, parce qu'il fallait vraiment remettre en place, et j'avais pris un rôle du gars qui était un peu craint quand même et tout, et puis j'ai eu aucun problème de management parce qu'il y avait cette distance qui était mise. Dans le CrossFit, bah, c'est clair qu'on est copains, on est friendly, on est communautaire et tout. Puis que ça soit autant avec les employés qu'avec les clients, la limite, elle est souvent pas atteinte, et puis ça bouffe sur la vie privée. C'est-à-dire que le client, parce que tu es sympa avec lui, parce que tu t'intéresses à sa santé, tu t'intéresses peut-être à une pathologie qu'il a, bah, il croit que tu es devenu son ami, peut-être, et puis qu'il t'écrit à pas d'heure le samedi, le dimanche, voilà, et puis toi, tu dis, bon, bah, je réponds, parce que si je réponds pas, j'oublierai, parce que la semaine, elle continue. Donc, je dirais, c'est ça, c'est peut-être, de mieux savoir dire stop, de mieux savoir de dire, OK, bah, oui, je suis à ton service, mais là, je suis en dehors des heures. Et puis de manager son entreprise en se disant que si je ne réponds pas au client, bah, ce n'est pas grave, il peut attendre lundi, quoi. Mm-hmm. C'est vrai qu'on est dans cette instantanéité et c'est ça, peut-être, je dirais, ouais, c'est l'erreur principale et que ce n'est pas encore tout à fait réglé. Hein, c'est de dire aux gens, bah, non, voilà. Alors maintenant, j'ai quelqu'un qui répond au mail pour moi, qui m'aide un petit peu, qui me seconde. Donc évidemment, j'ai pu augmenter, mais c'est peut-être ça. De réussir à mettre cette barrière professionnelle, privée, de réussir à dire, bon, bah là, c'est fini le boulot. Et puis moi, je suis quelqu'un qui, bah maintenant, ça va mieux, mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur mes peurs. Et puis, bah, ces peurs faisaient que peut-être je mettais le boulot en avant, je stressais beaucoup, alors que finalement, je faisais des angoisses, etc. Alors que finalement, bah non, ce qui est passé aujourd'hui peut être fait demain. Donc voilà, pour répondre vraiment à ta question, j'ai un peu développé beaucoup, mais c'est vraiment peut-être dès le départ de se dire d'être moins, mais c'est aussi ma nature. Hein, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, je suis quelqu'un qui suis soucieux toujours pour les autres, qui fait toujours beaucoup pour les autres. Donc c'est quelque chose que je travaille maintenant sur moi beaucoup depuis très peu de temps, où d'abord je me dis bah, fais les choses pour toi et puis après bah, tu donneras ce que tu peux aux autres. Et l'erreur principale, c'est d'avoir peut-être tout donné aux autres sans savoir en moi ce que j'avais besoin et puis sans pas me dire ok stop, pause. Voilà.
Mais ça, je pense que beaucoup de honneurs vivent effectivement cette problématique et les frontières entre, bah, quand on est entrepreneur, quel que soit le business, c'est voilà, la frontière entre la vie professionnelle, la vie privée, elle est relativement étroite et c'est clair que il faut trouver ce fameux, il n'y a pas forcément de juste milieu, mais il faut qu'on trouve effectivement le moyen de se préserver aussi mentalement par rapport à ça.
Ben c'est vraiment ça, c'est le fait qu'on est proche des gens en fait. C'est le fait qu'on est proche des gens et puis on a cette proximité qui n'est pas toujours respectée. Puis même si on apprécie nos adhérents, c'est pas nos amis non plus, c'est pas notre famille. Et comme on est ouvert, la branche ouverte 7 jours sur 7, ben des fois ça crée pas mal d'ambiguïté.
Voilà. Ah, c'est un peu le deuxième lieu de vie des membres. Alors c'est clair que voilà. Et tu as parlé tout à l'heure que tu as démarré avec un associé. J'ai souvent cette question. Est-ce que il faut démarrer un projet? Alors ça peut être monter une box ou tout type d'activité dans le fitness à plusieurs ou seul. Quel serait selon toi, avec le recul aujourd'hui, les choses à faire attention sur justement l'association ou pas association?
Quand j'étais tout jeune dans le domaine de l'assurance, je m'occupais d'entreprises, de petites PME. Et un jour, un patron d'entreprise m'a dit, vous savez, José, la meilleure association, c'est un nombre impair qui ne dépasse pas 2. Et j'ai eu d'autres business que le CrossFit avant. Et c'est vrai que j'ai souvent eu des désillusions sur où c'était pas évident. En ce qui concerne le CrossFit, bah, je dirais que Thomas, on était très complémentaires. Donc, je dirais pour le démarrage, il a vraiment été là. Enfin, chacun était à sa place. Donc, lui s'occupait de la partie administrative. C'est quelqu'un de plutôt technique. Hein. C'est quelqu'un qui est… Bon, c'est un ancien hockeyeur, mais il avait des hautes études et il travaillait dans le milieu bancaire assez haut placé. Donc, il avait ce côté pragmatique, rigoureux, etc. Donc, c'est vrai que la complémentarité, je dirais que je ne regrette pas du tout. Je suis même très content de ce qu'il a mis en place, que peut-être j'aurais pas mis la même chose. Il a beaucoup travaillé. Après, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, Thomas se cherchait un
peu. Je ne veux pas forcément remettre le tout, mais c'est simplement essayer de donner des pistes de réflexion à ceux qui se posent la question de tiens, voilà, quelles sont les choses importantes à faire attention? Parce qu'on dit souvent la même chose quand on s'associe. Est-ce que voilà, il faut que ce soit quelqu'un, un ami, quelqu'un de proche de la famille et autres, parce que voilà, ou au contraire, quelqu'un qui est détaché pour éviter, bah, comme tu disais, on s'est quitté pour éviter de rompre un peu cette amitié, c'est toujours un peu la difficulté. Et moi qui, tu vois, à contrario, qui ai toujours monté des business seul, ça me manque, tu vois, d'avoir un projet avec quelqu'un, tu vois. Donc, tu vois, c'est assez marrant. Je pense qu'il n'y a pas de vérité vraie parce que t'as autant des success stories que des drames. Mais c'est vrai que c'est intéressant j'aime bien avoir le point de vue des uns et des autres par rapport à tout ça, quoi.
Mais elle est intéressante, mais en même temps, c'est vrai que par rapport à Thomas, on est toujours très amis, et puis on a sauvegardé notre amitié. Et ce que je dis là, il le sait, parce que moi, il n'y a jamais rien que je dis de quelqu'un à d'autre qu'il ne le sait pas lui-même. Mais Thomas, c'est à un moment donné, il se cherchait un petit peu, et puis moi, j'attends quelqu'un qui reste à sa place. Donc, pour répondre à la question, je pense que si on part sur une association, il faut que les limites soient dès le départ respectées, que les barrières soient respectées, qui s'occupe de quoi et puis que personne n'empiète sur les barrières de l'autre. Ça, c'est la première version. Après, on était deux personnes opposées, donc je pense que ça faisait une complémentarité. Démarrer en vie de couple, etc. et tout, je sais pas, parce que c'est jamais facile. Il faut que le couple soit solide. De mélanger privé et professionnel, c'est jamais évident. Mais de nouveau, chacun a sa place, c'est tout à fait, voilà. Et c'est vrai qu'en tant que patron seul, c'est difficile parce qu'on a besoin des fois de pouvoir avoir une épaule sur laquelle parler. D'avoir des fois, c'est même pas le fait d'avoir des avis ou d'avoir des réponses, c'est juste d'être écouté des fois. Prendre des décisions seules, c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que j'ai pas de conseils à donner particulier. Le seul, ça serait de dire, s'il y a association, il faut que les choses soient très très claires dès le départ. Et puis c'est comme ça, quand on voit si l'association est bonne, c'est quand tout va mal, pas quand tout va bien. Donc c'est comme dans un couple, je veux dire, si le couple est solide, c'est que les gens communiquent entre eux, et puis de dire il y a ça qui va pas, puis s'il y a pas de communication, c'est clair que il y a pas de solution. Donc je pense que c'est vraiment que chacun reste à sa place, que les limites soient fixées, et puis qu'il y ait une communication, un échange régulier. Voilà. C'est vrai que seul on prend pas de risque, dans le sens où on peut s'engueuler tout seul, mais c'est vrai que le bateau est des fois doux à porter, quoi.
Le CrossFit a beaucoup évolué depuis que tu as monté ta box. Moi, je le vois bien depuis... moi, je me suis affilié en 2013, je crois. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est quoi ta vision aujourd'hui? Est-ce que CrossFit Lausanne, à tes débuts, je crois que tu m'as dit 8 ans, ou je ne sais plus, 8 ou 10 ans, et maintenant, qu'est-ce qui a évolué sur la méthodologie, ou peut-être la programmation, ou peut-être les cours que tu as fait? Est-ce que tu as développé autre chose? Ça m'intéresse un petit peu de voir l'évolution un peu des owners, comment ils se sont appropriés aussi le concept, et peut-être aussi par d'autres formations ou d'autres choses que tu as pu vivre, toi, dans d'autres pays ou autres. Comment tu vois ça, toi, de ton côté?
Je dirais que la méthodologie CrossFit, elle a évolué sans évoluer, dans le sens où elle est bonne dès le départ pour moi. Je veux dire, le level 1, il a quoi, 15 ans maintenant, 20 ans, il a été un peu mis à jour sur 2-3 points, mais fondamentalement, il n'a pas changé. Level 2, ce qui a changé, c'est que maintenant, on a des formateurs français qui parlent français. Donc avant, moi, je me rappelle quand j'ai passé mon level 1, c'était j'ai un anglais... plus que basique, donc j'avais demandé anglais et français, mais finalement c'est tellement mal traduit en français que je devais me rouiller avec l'anglais pour passer le level 1. C'était donc ça que ça a énormément évolué au niveau du support. Après, au niveau marketing, on verra. Là, on voit qu'ils ont mis, qu'ils ont engagé quelqu'un en marketing, donc il y aura un plus grand support gentiment vers nous. Après, moi je suis fidèle, donc la méthodologie, moi, elle me convient. Après, oui, c'est clair que j'ai fait d'autres formations à titre personnel parce que ça m'intéresse de toujours me développer. Mais je pense que souvent, les gens qui critiquent la méthodologie, c'est qu'ils ne l'appliquent pas, je trouve. Je vois plein de choses. Quand on me dit « les classes et tout », moi, j'ai vu d'autres CrossFit… la programmation, elle est un peu aléatoire. Il y a aucun coach qui fait son plan de classe. Alors que finalement, tous les ressources, tous les outils sont là. Donc, je pense en plus CrossFit maintenant donne aussi, ceux qui veulent suivre la programmation CrossFit, qui a quand même fait ses preuves, il y a les plans. Je trouve que les gens critiquent. Voilà. Après, c'est clair, il y a eu cette augmentation de licence qui s'est faite. Justifié, pas justifié, je trouve que les gens crient toujours au scandale, mais alors, mon avis, c'est normal que les choses augmentent. Pour ma part, alors là, je vais prêcher que pour ma paroisse, parce que quand ils ont augmenté, j'avais déjà payé mes licences, donc je me dis, je suis tranquille pendant une année pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis moi, l'autre situation, c'est que si tout va bien, dans une année, j'ai plus qu'une seule licence au lieu de deux à payer. Maintenant, ils ont dit qu'ils apportaient des choses, donc laissez-les en faire. Voilà. Après, je pense stratégiquement, CrossFit aurait eu meilleur temps de monter les licences d'un peu moins cher. Par contre, d'augmenter peut-être les formations d'un peu plus. Et puis, pour augmenter leurs gains. Voilà. Mais après, c'est de nouveau… les gens gueulent souvent avant d'avoir vu. Donc, laissons le temps de faire les choses. Et puis après, posons-nous les bonnes questions. Mais je pense que CrossFit a quand même évolué. Il est quand même venu dans les mœurs. Moi, je vois que je dois de moins en moins rassurer les gens sur que la méthodologie n'est pas une méthodologie barbare. Je pense que ça fait ses preuves. Et puis, de nouveau, c'est à nous d'être les porte-parole de la méthodologie. Après, il est clair que, je veux dire, on apporte d'autres formations. Moi, j'ai fait les formations avec Institut IP et Mathieu Boulle sur la neuro, la posturologie. C'est des choses qui sont passionnantes, mais c'est de nouveau des choses que je ne vais pas appliquer en classe ou très peu, mais c'est pour ma culture personnelle. Évidemment, j'ai fait plein de séminaires d'haltérophilie parce que j'adore l'haltérophilie, puis je pense que je ne suis pas trop mauvais en spécificité haltérophilie pour le coaching. Okay. Mais c'est des choses qu'on approche, qu'on forme, mais si la méthodologie est respectée, voilà, les gens ont souvent tendance à voir la tache qui a sur le pull blanc, la tache noire, alors de voir que le pull blanc est entièrement blanc et que la tache est toute petite. Donc, je pense que la méthodologie, elle est bonne, elle a fait ses preuves, elle est là pour faire avancer. CrossFit n'a jamais favorisé l'élitisme, la compétition. Là, on a la période des Open, mais oui, c'est un petit sucre, mais je veux dire, la base, c'est que monsieur et madame tout le monde bouge, point.
Et sur la partie, toi, dans tes box, du coup, il y a quoi à l'intérieur en termes d'entraînement? Il y a que la spécificité CrossFit ou tu as mis justement des spécialités altéro, gym? Comment tu organises ton planning et tout?
Alors, on a l'essentiel, c'est les classes CrossFit, évidemment. On a deux cours gym qui sont gratuits, on offre aux clients. On a un cours d'haltérophilie aussi, spécifique par semaine. On a yoga en plus.
Okay.
Et puis là, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais j'ai surfé sur la vague. Pour être honnête, je voulais développer des cours d'endurance. Il y a Aerox qui est sorti et puis j'ai pris la licence. Voilà, 900 heures. Voilà, c'est ce qui me fait un peu sourire. Parce que certains owners gueulent sur 4500 balles que la licence est montée CrossFit. Et puis, ils sont prêts à payer 900 balles pour recevoir une bâche et puis deux affiches Aerox, quoi. Aucun support. Alors moi, je l'ai aussi fait, hein. J'ai suivi, je l'ai aussi fait, mais moi, je l'ai fait purement commercial parce que je me suis dit, tiens, si ça peut attirer une autre clientèle que CrossFit, qui a peut-être un peu peur du CrossFit, voilà. Pour le moment, je ne l'ai pas mis spécialement en avant, je n'ai pas fait beaucoup de pubs pour ça. Ça pourrait l'être dans les nouveaux locaux dans une année où c'est un petit peu plus orienté là-dessus, peut-être. Mais de nouveau, la méthodologie CrossFit, l'Aerox, je veux dire, c'est sympa l'aspect de la compétition, mais je veux dire, il n'y a rien de plus que dans la méthodologie CrossFit, quoi.
Oui, oui, c'est de l'entraînement fonctionnel avec une base cardio. Ok. Tu développes un peu le one-to-one?
Alors, moi, je l'ai développé surtout au début parce que j'en avais besoin pour des ressources financières. Je m'énerve un peu contre mes coachs parce que je leur ai mis en place des possibilités de développer le one-to-one. Donc, c'est les premiers à dire « Ah, mais je gagne pas assez d'argent », mais c'est les premiers à… Voilà. Alors que c'est hyper facile, surtout dans le CrossFit, de développer le one-to-one. À chaque classe, il y a un client qui est embêté sur une mobilité, sur un snatch, sur un mouvement gym. Tu vas vers ton client. Moi, j'ai toujours prouvé à mes coachs, tu veux gagner ta vie, c'est facile. Tu vas vers un client, tu dis « Écoute, je vois que tu aimerais progresser sur tes pull-ups ou tes muscle-ups. Tu veux prendre deux personnes entraîneurs avec moi ?» Et voilà. Mais ils le font pas. Ils le font pas alors que j'ai créé un tarif… soit ils prennent un client qui existe déjà, ils démarchent, soit c'est nous qui le renvoyons, soit c'est un client complètement externe. Donc, ils ont trois tarifs. C'est quelque chose qu'ils ne font pas. C'est quelque chose dans les nouveaux locaux qu'on va faire parce qu'on va ouvrir les locaux à des personnes d'entraîneurs extérieures. Donc, on est en train de mettre ça en place, c'est-à-dire que tes personnes d'entraîneurs, tu n'as pas de point de chute pour entraîner tes clients. Tu viens chez nous dans notre salle, tu loues la salle, il y a un tarif horaire qui s'est fait avec des carnets de séances. Et la seule chose qu'on réfléchit, c'est à mettre en place une mini-formation quand même obligatoire pour nos personnes d'entraîneurs parce qu'on n'a pas envie que. Il y a du tout et n'importe quoi au niveau du coaching.
Voilà. Mmh. Ok. Et comment expliques-tu que les personnes, le trainer, n'osent pas ou ne veulent pas développer le one-to-one?
Mais parce que, de nouveau, c'est de la volonté. C'est peut-être qu'ils sont trop bien payés par leur salaire de base. Mais c'est vrai que je leur ai déjà dit, je dis, mais tu veux gagner un peu plus, tu prends chez nous en Suisse la moyenne d'un. d'entrepreneur, c'est entre 120 et 130 francs l'heure. Là-dessus, il gagne à peu près 80 francs de l'heure net, on va dire. Voilà. Je lui dis, bah, tu prends 3 personnes d'entraîneur par semaine, ce qui n'est pas énorme, quoi. Je veux dire, bah, c'est environ 250 francs que tu te fais par, voilà, à la fin de la, à la fin du mois, tu as 1000 francs de plus. Enfin, si 1000 francs pour toi, ça fait important, bah, tant pis, quoi. Mais voilà. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage. Alors là, j'ai un coach qui a travaillé dans un studio de personnes d'entraîneur, qui a une grosse expérience, il va certainement le développer gentiment chez nous. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est mis de côté, alors qu'il y a un potentiel énorme. Mmh.
Est-ce que tu as mis autre chose en termes de d'offres complémentaires, alimentation, produits diététiques, des choses comme ça, des produits annexes un peu pour augmenter le panier moyen? Qu'est-ce que tu as mis en place?
Oui, alors ben, la nutrition, j'ai fait depuis 20 ans à peu près beaucoup de formations en nutrition, donc j'ai un certain bagage quand même qui peut répondre quand même à déjà pas mal d'adhérents sur la nutrition, donc effectivement, ben, je mets en place à la demande du client des coachings nutrition quand il me le demande. Alors c'est vrai que mon temps, j'ai peu de temps, donc je ne pousse pas spécialement parce que c'est moi qui dois les faire, mais quand on me le demande, ben, je le fais. Au niveau des compléments alimentaires, ben, j'ai la chance d'avoir une autre société qui s'appelle ben, IAM Nutrition, qui est la société en France que vous connaissez très bien, des compléments alimentaires à table douce. Et moi, j'ai depuis aussi 6 ans maintenant la représentation pour la Suisse. Mmh. Donc on a la société IAM, donc évidemment ben, dans la box on vend les produits IAM Nutrition qui sont des produits de qualité aussi, et voilà, donc on a quelques compléments aussi, j'ai d'autres compléments avec un de mes amis Burka Nutrition qui est un nutritionniste, un neuro-nutritionniste aussi et tout, donc on présente aussi sa marque, mais de nouveau ça reste si c'est pas José qui le fait, mes coachs le font pas, enfin, quand un client demande un pot, il le vend, mais proactivité, voilà, donc c'est vraiment des questions sur lesquelles ben, dans le quand il y aura la nouvelle salle où il y aura une boutique et tout, on va essayer de voir pour être plus proactif à ce niveau-là par le biais de. Ouais, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a du personnel qui s'implique, il y a des personnes qui en veulent. Il y a d'autres, ben, ils disent moi, je me contente de ça, puis je ne fais pas plus. Quoi. Donc voilà.
Comment tu gères justement l'aspect accompagnement avec tes membres? C'est quoi la réflexion par rapport à ça? Est-ce que du coup, il y a un rendez-vous, un premier rendez-vous où tu leur expliques du coup, toi, ta philosophie, ce qu'il y a et par rapport à l'objectif, voilà ce qu'ils doivent faire? Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça, sur la prise en charge des membres que tu as?
Alors, ce que l'on fait maintenant, mais ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce que l'on fait maintenant. C'est-à-dire que nous, on a des campagnes de séances d'essai gratuites. De toute façon, le client qui veut démarrer le CrossFit, on lui fait une séance d'essai gratuite. Donc, il vient, voilà, on débriefe après avec lui comment ça s'est passé. Et puis après, bah, s'il souhaite poursuivre, nous, on a toujours les fondamentaux qui sont obligatoires.
Ouais, okay.
On peut déroger à ça. Je sais que ça peut être une barrière, on peut perdre des clients, mais pour nous, c'est quand même les clients qui le comprennent, c'est quand même accepté. Donc on l'a en 2 fois 1h30. C'est en small group, ça peut être tout seul ou 2 ou 3, maximum 4 adhérents. Et là, on a la solide. Ce qui me permet, moi, d'un mes coachs débutants novices, de eux donner les newcomers, ce qui leur donne un bon bagage aussi de formation. Et aux clients de démarrer en toute sécurité, puis de rejoindre les classes avec une mini base de connaissances. Okay. Donc voilà ce qu'on fait maintenant.
Est-ce que tu as testé d'autres choses au cours de ces 8 années-là?
Alors, les séances découvertes, c'est tout nouveau. Parce qu'avant, c'est vrai que j'avais des séances découvertes sur un samedi par mois ou 2 samedis par mois où je réunissais que des gens en découverte, etc. C'était bien, mais ça limitait quand même pas mal de monde. Mais comme à l'époque, je ne me posais pas la question de savoir si j'avais assez ou peu de monde, ça me convenait bien, on faisait comme ça, voilà. Maintenant, je pense que l'option qui peut être beaucoup plus commerciale, elle est mieux d'avoir ces séances découvertes gratuites et puis de prendre les gens en main. Maintenant, dans l'idéal, et ça, je pourrais me le permettre de le faire quand je serai sur un seul site, c'est d'avoir vraiment, quand la personne termine, nous, dans la prochaine salle, on aura un espace canapé, fauteuil, enfin, vraiment chill, avec un petit bar, etc. Donc là, vraiment, bah, l'idée, c'est qu'il soit pris en charge après la séance. Voilà, comment ça se passe, est-ce que ça t'a plu, qu'on puisse prendre 10 minutes, un quart d'heure pour expliquer la suite. Souvent, actuellement, on l'explique un peu à la va-vite derrière.
Aujourd'hui, cette partie commerciale, parce qu'il y a la même chose, il y a, Il y a deux visions, c'est soit effectivement le coach qui gère cette partie commerciale ou tu as des structures, des box ou autres qui ont des commerciaux où c'est entre guillemets leur job. C'est quoi toi ta vision ou qu'est-ce que tu as pu déjà tester comme modèle?
Bah nous, c'est que nous, les coachs qui le faisons, ou des fois des adhérents aussi qui se mettent, voilà. On n'a pas la même solution, ouais. On n'a pas la même solution que vous avez en France où vous pouvez avoir, moi, bah, tu me trouves quelqu'un qui vient travailler, je sais pas quel est le salaire de base, mais un commercial, chez vous, je pense qu'à 1100 euros, vous avez quelqu'un qui vient travailler sans problème, je pense environ, quoi, plus les commissions, j'imagine.
1000 combien?
À 1100, 1200 euros, je pense que là-bas, en salaire de base.
Ouais, un peu. Alors, si c'est les fixes, après, faut voir les. S'il y a, ouais, au niveau des. Parce que bon, 1200, c'est 1200, 1300, c'est le SMIC. Après, plus. Il faut voir. Mais oui, ça peut être.
Nous, un commercial, à moins de 3500, 4000 francs, il n'y en aura pas, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, non, on ne peut pas se permettre. Idem pour les stagiaires. Hein. Je veux dire, on ne peut pas se permettre d'avoir des stagiaires comme vous avez. Voilà. Donc, la structure est quand même différente en Suisse. Souvent, les gens pensent que la Suisse, bah, c'est il y a l'argent qui coule à flot, mais tout coûte plus cher, quoi. Tout coûte beaucoup plus cher. Donc, non, on ne peut pas se permettre, mais c'est clair dans l'idéal. Alors, moi, je te dirais que si demain, dans la grande structure qu'on met en place, c'est pas impossible que j'ai pas un commercial, quoi. Mais ce serait un commercial qui est capable de faire l'admin, donc qui répond aux mails, qui a une polyvalence, qui est capable de faire aussi le marketing, les réseaux sociaux, et puis qu'on regroupe tout sous la même chose. Mmh. Ça, c'est une solution. Ou c'est moi qui le ferai, ou quelqu'un à la réception. Enfin, il y a des options qui se réfléchissent, qui se dessinent. Mais je pense que je serai amené, vu la structure dans laquelle je m'engage, à avoir un accueil, un service d'accueil, un service de réception pour les adhérents, évidemment. Mmh.
Comment tu gères, quelles sont tes stratégies pour fidéliser tes membres?
Mais la chance de pouvoir venir chez nous, donc non, je rigole. Fidéliser, bah bon, on a déjà, bon, c'est un rabais de fidélité qui se met sur l'abonnement automatiquement. Après, il y a des facilités qu'on peut faire à des adhérents. On a les tarifs de base. On ne sait pas dire qu'on fait d'autres tarifs à d'autres adhérents, mais dire que tout d'un coup, l'adhérent qui nous prend, qui est déjà client depuis chez nous et qui prend habituellement au mois, et puis on lui dit, bah, écoute, si tu as la possibilité de payer en une année, trois ou quatre paiements, on te le fait. Donc voilà, on donne des petites faveur de facilité plus que des faveurs à nos adhérents. Le rabais, enfin voilà, et après, il y a quand même dans le package, je veux dire, s'ils prennent une année complète, ils ont un personal trainer gratuit. Ça, c'est aussi une approche aussi où je me fâche un peu vers mes coachs parce que je dis, mais quand le client vient faire son personal trainer, tu lui as fait puis tu lui as pas vendu quelque chose derrière. Ah non, bah ouais, c'est l'idée d'une approche. Il y a un t-shirt qui est offert quand tu prends une année, donc il y a quelques petites choses qui sont quand même pas négligeables. Mmh. Et voilà, puis c'est vrai que nous, on a cet argument de dire, bah, il y a deux salles, donc t'as un seul abonnement, mais t'as deux salles, donc c'est quand même, c'est quelque chose qui est deux box qui est pas négligeable. Après, fidéliser, bah voilà, après, on sait que j'aime pas vendre des rabais, moi j'aime vendre des prestations. Donc voilà, le petit rabais, c'est un petit geste, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas 1% ou 2% par année que tu fais qui va changer grand chose, je veux dire. Mais voilà, après on est reconnaissant quand quelqu'un amène un nouveau client, on offre un t-shirt, on offre quelque chose. Enfin, voilà, on essaie vraiment d'avoir ce côté familial le plus possible, quoi.
Comment on en vient justement à créer une deuxième box? C'était une volonté de ta part ou c'est le fait qu'il y a eu l'opportunité, comme tu m'as dit tout à l'heure, et c'était voilà, l'opportunité à saisir?
C'était une opportunité. Ouais. C'est, en fait, c'est rigolo parce que quand on dit que les choses doivent se faire, elles se font. Les locaux que j'occupe au centre, c'était un plan B ou C si les grands locaux ne se faisaient pas. Et quand j'ai ouvert les grands locaux, genre 6 mois après, la personne qui les avait, ces locaux, m'appelle, me dit « Ah, ils sont libres. » Je dis « Bah, je peux pas ouvrir deux salles en si peu de temps. » Donc, il a retrouvé un locataire. C'était un institut de beauté, hein, je veux dire. Donc, il a retrouvé un locataire. Et puis, quelques années plus tard, il vient vers moi, il me dit « Écoute, le locataire ne paye plus les loyers. Je suis embêté. Est-ce que tu veux pas prendre ces locaux ?» Je lui dis « Bah oui, bah go. » Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, okay. C'était une option. C'est rigolo parce que c'est des locaux que j'avais en vision au cas où ça marchait pas, quoi.
Et Avec le recul, là, est-ce facile, du coup, de dupliquer un modèle? Parce qu'on dit souvent, bah, il y a des économies d'échelle. Alors, tu nous as parlé aussi, il y a des désavantages, mais voilà, moi, j'avais cette réflexion de me dire, bah, je peux le marketing, enfin, voilà, je peux modéliser certaines choses et je peux réduire certains coûts, certains frais. C'est quoi, toi, ton recul après quelques années avec ces deux box, en sachant que tu veux justement en avoir plus qu'une et recentrer un peu tout ça?
Ben de nouveau, ben là, c'est peut-être là que la question peut se poser d'avoir un associé ou pas que tu posais précédemment. Parce que c'est vrai qu'avec deux salles, ben, tu n'arrives pas à te... Tu as ton personnel qui est réparti dans deux salles, même si on fait des tournus pour éviter d'avoir un peu que les coachs tournent sur les deux salles. Mais par contre, tu ne veux pas être partout et tu te rends compte que tu dois faire confiance. Et ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai ouvert la deuxième salle, j'avais misé sur une coach, puis après un coach qui prenne le lead et puis qui soit un petit peu mon bras droit. Ça ne s'est malheureusement pas fait, ils ne l'ont pas prouvé. Mais c'est vrai que je pense que si tu ouvres une deuxième salle, c'est soit que tu as un associé qui dit « Ok, ben moi, je m'occupe d'une et puis toi, tu es de l'autre. » Et puis on profite des synergies, mais chacun est quand même responsable du site. Tout seul, c'est difficile, quoi. C'est difficile d'avoir deux salles, de créer deux énergies, deux ambiances, d'avoir un œil sur tout. Et puis après, au niveau planning, c'est compliqué parce que, je veux dire… Si t'as qu'une seule grande salle comme on se prédestine, bah t'as un coach malade et tout, tu sais que tu peux jongler, tu peux dire ok, bah exceptionnellement, on avertit les adhérents autrement. Là, t'as un coach qui est pas là, bah comment tu fais? C'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Donc moi, je recommanderais l'ouverture d'une ou de plusieurs salles en ayant soit des employés que tu peux vraiment nommer responsables, qui ont la tête sur les épaules et puis qui disent bon bah tiens, j'ai l'opportunité d'avoir entre guillemets, mon business, même si c'est pas moi le patron, mais que je gère un peu le truc. Soit alors, tu es associé, puis là, à ce moment-là, ben, tu dis, il y en a un qui prend l'une et pas vous l'autre. Mais c'est vrai que nous, dans le CrossFit, c'est tellement communautaire, c'est tellement particulier. C'est pas comme un fitness où les gens, ils viennent au fitness, ils viennent pas chez dans un CrossFit particulier. Donc, c'est quand même des marchés différents, à mon avis.
Ok. La gestion de tes coachs, c'est quoi? C'est les indépendants?
Non, en Suisse, le statut d'indépendant, il n'est pas comme en France, vous avez le statut d'auto-entrepreneur. Nous, en Suisse, si tu veux, ben, moi, j'ai deux types de coach. J'ai un coach qui est engagé à pratiquement 100%, 97%, 95%.
Okay.
Nous, en Suisse, un 100% correspond à 42,5 heures. Mmh. J'en ai un autre qui est engagé à 50%, ça, c'est des coachs fixes.
Okay.
Après, c'est des coachs qui sont horaires. C'est souvent des coachs qui ont un job à côté. Donc, ils font plus ou moins d'heures. Mais tous, en fait, sont déclarés ce qu'on appelle, nous, en Suisse, l'AVS, qui est la cotisation vieillesse. Mmh. Dès que ça dépasse 2500 francs par année, on doit les déclarer. Donc, tous mes coachs sont déclarés, ce qui fait quand même des masses salariales assez importantes. Et voilà, mais j'ai, je crois... un coach qui est indépendant, qui me facture des heures, mais c'est le seul. Quoi. C'est vrai que ça revient socialement au niveau assurance sociale vite très très cher. La masse salariale n'est pas insignifiante.
Ah oui, c'est, je me doute. Et c'est quoi la mission que tu donnes à tes coachs, hormis forcément le fait de coacher les classes? Mais est-ce que tu leur donnes d'autres missions, tout ce qui est lié à l'admin et à tout ça?
Joker, non, je vais prendre Joker parce que tu touches un sujet délicat, parce que il y a évidemment un cahier des charges, mais souvent, des fois, j'ai décidé d'arrêter de me fatiguer, parce que je veux dire... souvent, quand je viens derrière un de mes coachs ou je passe à la salle, ben, c'est moi qui vais vite vider la poubelle, c'est moi qui vais vite ranger la vaisselle ou comme ça, parce que ça se fait pas automatiquement. Il n'y a pas ce réflexe-là. C'est vrai que souvent, ils se limitent à coacher. Puis des fois, je me dis, bon, arrête de t'énerver, tu fais du mal à toi. S'ils coachent bien et puis suivent bien les clients, c'est déjà beaucoup. Et puis voilà. Donc, du coup, c'est vrai que moi, à l'époque, mes coachs étaient payés un quart d'heure de plus sur l'heure pour l'ouverture et la fermeture et une demi-heure pour les ouvertures, première ouverture et dernière fermeture, une demi-heure de plus. C'était la demi-heure qui était censée aller checker les douches, donner un petit coup de douche si nécessaire, changer le papier. Enfin, voilà, ça ne se faisait pas. Du coup, il y a 6 mois, j'y ai remédié. J'ai engagé une femme de ménage qui vient tous les 2 jours et qui fait le gros ménage. Et puis voilà. Mais même là, si elle laisse le sac à poubelle qu'il faut demander de vider, ben, je vois que le sac à poubelle traîne 3 jours. Quoi, si José vient pas le. Voilà. Donc, c'est vraiment. Ouais, je pense qu'à un moment donné, c'est difficile de trouver des gens qui. Ouais, qui auront cette vision, ou alors c'est peut-être moi qui vois un peu tout trop vite, mais qui ont cette vision de s'engager, de faire les choses correctement. Quoi. À un moment donné, ben, on se dit, ben, en tant que patron, on le fait nous, on le fait faire à quelqu'un d'autre, et puis c'est fait, puis voilà.
Et toi, par rapport à ta posture de owner aujourd'hui, quelles sont les tâches qui te. Comment tu gères justement ta semaine avec en plus de boxe? Est-ce que tu coaches encore? Parce que tu m'as dit que tu coachais, je crois, encore l'altéro, enfin, il me semble. Comment tu fais pour tout faire?
Maintenant, j'ai pu un peu plus déléguer, mais c'est vrai que la partie. Moi, c'est vrai que ce qui m'embête le plus, c'est que je me suis éloigné de ce pourquoi j'ai ouvert CrossFit Lausanne, c'est-à-dire le coaching. Donc, je dirais, je coach environ une quinzaine d'heures par semaine, encore, quand même, alternativement sur l'une ou l'autre salle. Au niveau administratif, j'ai quelqu'un, Nadine, qui me répond à tous mes mails, enfin, l'essentiel des mails qu'elle peut répondre, donc qui gère beaucoup, et puis qui me gère aussi, c'est Nadine plus une autre adhérente, qui sont spécialisées en marketing digital, qui me gère mes réseaux sociaux.
Okay.
Donc voilà, c'est des gens que, bah, comme des coachs qui me facturent les heures, qui je paye les heures, bah, elles sont la même chose aussi. Voilà. Donc moi, mes tâches, bah, restent à la gestion financière, restent à la gestion à répondre à des mails, à tout ce qui est gestion des abonnements, etc. Et puis à faire que tout tourne, quoi, je veux dire, aux commandes, enfin, des choses comme ça. Donc c'est vrai que bah, on a plusieurs casquettes, mais on essaie de s'organiser souvent. Souvent, on répond dans l'instantané. Donc, c'est vrai que des fois, tu te dis, l'administratif, c'est pas ce que j'aime, mais c'est vrai que des fois, je dirais que j'ai une grosse, voire une journée et demie par semaine d'administratif où je me mets vraiment derrière l'ordinateur. Et puis, on le fait, c'est parce qu'on aime, mais il faut le faire. Et puis, à terme, c'est quelque chose que peut-être que je déléguerai gentiment, quoi.
Mmh. Et tu nous as parlé de peut-être ton futur projet. Quels sont les grosses nouveautés que tu veux apporter sur ce nouveau projet-là, s'il se fait?
Alors, les grosses nouveautés, bah, ça sera qu'il y aura, de par le fait que la grandeur de la salle le permettra, il y aura une salle en étage aussi où on est en train de réfléchir à amener une autre chose que le CrossFit. Donc, ça risque d'être un cours un peu genre cardio, boxing ou quelque chose comme ça.
Ouais, ok. Mais
un ancien aussi des sports de combat, donc c'est clair que... Bah, ça ne me dérangerait pas. Puis commercialement, c'est vrai que ces cours un peu intensifs, punching, boxing, comme ça, qu'on voit de ces concepts de 45 minutes avec musique, sono, light, peut attirer notre clientèle. Donc l'idée, c'est d'attirer notre clientèle qui permet de rentabiliser les locaux et puis qui permettrait d'amener aussi peut-être des gens qui auraient peur du CrossFit de dire « Ah ben tiens, finalement, je les vois tous les jours, puis finalement, ça a l'air abordable, ça m'intéresse. » Donc ça, c'est une première chose, un premier axe de travail. Le deuxième axe de travail, bah, c'est de développer les personnes entraîneurs. Développer cette offre de personnel trainer, parce que je pense que on aura un horaire qui sera ouvert du matin au soir, donc sans fermeture, donc on pourra rentabiliser en ouvrant des créneaux. Et puis après, ça serait de il y aura aussi la boutique, il y aura aussi une boutique de compléments alimentaires où les gens pourront venir acheter, donc ça va créer aussi un flux de personnes d'être externes au CrossFit qui viendront acheter leurs compléments alimentaires comme ça. Et puis pour finir, bah, c'est d'avoir pour moi un vrai bureau sur place où quand on ferme le bureau, on ferme le bureau. Et puis je rentre à la maison. Donc ça sera aussi une grosse nouveauté pour moi de dire OK, je suis là. J'aurai accès. Quand le chat n'est pas là, la souris danse, donc le chat sera toujours là. Mais même s'il est au bureau, moi j'aurai peut-être des horaires un peu de bureau aussi à dire OK, tel jour, je suis enfermé au bureau, je gère l'admin et puis c'est fait. Mais par contre, quand je rentre à la maison, j'ai fermé aussi, j'ai droit aussi à mes jours de congé. Et puis voilà, donc, ça sera aussi vraiment ça que... Voilà, ça serait beaucoup plus, je vais pas dire professionnel parce qu'on l'est déjà, mais beaucoup plus peut-être carré, quoi.
Comment tu arrives à gérer, la partie récupération aussi mentale par rapport au rôle du chef d'entreprise?
Bah, c'est intéressant que tu poses cette question-là parce que je suis en plein dedans. Depuis 3 mois, là, j'ai fait un gros travail sur moi, l'introspection, parce que je suis quelqu'un qui pense tout le temps, qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit des fois à la place des autres, qui a toujours peur de mal faire, donc qui se met une pression énorme. Et puis j'ai remarqué que c'était pas bon, quoi. Et là, j'ai fait un gros travail on va dire énergétique, spirituel, grosse introspection sur moi avec l'aide de différents thérapeutes pour justement peut-être, certainement, quoi. C'est surtout ça, je me dirige, c'est de pouvoir justement oser arrêter d'avoir toujours le stress de mal faire, d'avoir peur de voilà. Donc c'est un peu un paradoxal, parce que c'est peut-être ce souci là qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui ou à ce que j'ai construit aujourd'hui professionnellement, mais ça crée aussi une charge mentale qui est énorme, parce que t'es tout le temps en train de te remettre en question, t'es tout le temps en train de réfléchir, t'es tout le temps en train d'avoir peur de mal faire, d'avoir besoin de l'approbation des autres, d'aller chercher l'approbation des autres. Souvent, des fois, je demande l'avis des autres, mais en fait, j'ai déjà ma réponse, mais c'est juste pour voir si j'ai raison. Enfin, voilà. Et c'est aussi le fait de porter des fois le bateau tout seul. Et je dirais, c'est ça, c'est de aussi se connaître, oser aussi des fois se mettre face au miroir, de dire, OK, est-ce que il faudrait pas aussi que ce cerveau, il se repose un petit peu. Et puis aussi, des fois, d'être bon avec soi, juste se dire, OK, ce que tu as fait, c'est déjà pas mal. Oui, on peut faire mieux, mais
c'est même très bien. C'est même très bien. Je te le dis en toute honnêteté, c'est déjà très très bien ce que tu fais.
Et il faut dire que sur Terre, on n'est pas là pour longtemps. Hein. Je veux dire, on est là pour 30 000 jours. Hein. Donc c'est vrai que à une époque de ma vie, alors elle est lointaine, j'ai beaucoup prêché par ego parce que j'avais besoin d'être assuré par ego. Maintenant, l'ego, j'en ai plus. Je veux dire, récemment, un ami à moi me disait, mais tu te rends compte ce que tu as construit, tu imagines, je me rappelle ton projet, il n'y avait rien et tout. Oui, c'est chouette. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, José Lara, on s'en foutra, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est aussi des fois de se dire, OK, ce que je fais, je le fais de mon mieux. J'ai certainement pas tout fait juste, mais ce que j'ai donné avec tout mon cœur, toute mon âme. Et voilà, et peut-être des fois de justement ne peut-être pas tout donner peut-être un peu moins, et puis garder de la réserve, parce que quand on a eu toujours le pied au plancher, on n'a plus rien pour accélérer, quoi. Voilà, je suis rien ni personne pour donner des leçons aux gens, je partage juste mon expérience personnelle, et des fois de trop donner à tout va, et on s'épuise, et puis les gens ne reconnaissent même plus ce qu'ils ont de bien, quoi.
Est-ce que ça, justement, aussi, c'est des choses... Enfin, moi, en tout cas, ma vision de personal trainer, là, depuis 20 ans, a beaucoup évolué, où je pense qu'aujourd'hui, effectivement, prescrire de l'exercice, du sport, du mouvement, ça fait partie de moi. Mais aujourd'hui, je développe beaucoup de choses de part... tu as parlé d'alimentation. Je pense aussi le côté mental, le mindset, le côté un peu spirituel et tout. Est-ce que c'est des choses, soit, que tu envisages de faire par rapport à tes membres, enfin, les éduquer par rapport à ces leviers-là? Parce que je pense que, enfin, il y a tout à faire dans la santé de manière globale et holistique. Je sais pas un peu ta vision par rapport à ça, toi.
C'est hyper intéressant comme question. Je vais être honnête, j'ai pas la réponse. Je suis naturellement quelqu'un qui aime partager. Donc, je peux partir autant sur mes expériences spirituelles. Je suis quelqu'un qui ressent très vite les gens aussi et tout. Et je le fais souvent, mais je ne suis pas payé pour le faire. Actuellement, on est dans un monde où, la spiritualité, la partie holistique est importante, mais il y a beaucoup de charlatans aussi, il y a beaucoup de... Et en fait, cette question-là, je sais pas quoi te répondre, pour être honnête, parce que si financièrement, tu dis « OK, il y a assez d'argent et tout », moi, j'ai aucun problème à me poser sur le canapé, puis discuter avec les clients, puis faire en sorte qu'il aille mieux. Ça va me nourrir aussi si j'ai pu apporter quelque chose à quelqu'un. Mais à la fin, on a tous nos factures à payer. Et comment valoriser ce travail-là? Parce qu'indirectement, perso, je le fais. T'es en coaching personnel avec moi ou t'es même en classe, t'as un moment de down. Moi, ça m'est arrivé, j'ai des clients même en classe, CrossFit, tout d'un coup, qui vont craquer, que j'ai pris à part, je vais discuter une demi-heure avec eux, ils vont lâcher leurs problèmes, etc. Mais après, tu peux pas tellement les demander un billet pour ça. Maintenant, comment le valoriser, ça, je sais pas. Et puis, comment te... c'est une question qui est hyper pertinente, qu'on pourrait, je pense, à développer pendant des heures. Au même titre que, tu vois, je, quand quelqu'un a un mal quelque part, bah, du fait de par l'expérience, du fait que aussi en passant les mains, je tombe très vite sur, c'est pas du magnétisme, c'est que je tombe très vite sur ce qui va pas. Ça m'arrive des fois où je réussis à trouver ce qui joue pas chez la personne. Puis il te dit, mais t'es sûr? Parce que mon médecin m'a dit que j'allais faire des injections quand même, des infiltrations au coude. Je dis, oui, mais je t'ai massé là, t'as plus mal. Ouais, mais t'es sûr que le médecin, bah, tu veux pas aller faire des infiltrations si ce que je t'ai fait, voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais écoute, je sais pas, enfin, voilà, j'essaie d'être très, voilà. Et comment tu vas valoriser ça? Quelle est la crédibilité que tu es? Parce que t'es pas, j'ai une amie physio qui a reçu une cliente hier. Elle m'appelle pour me dire, bah, qu'est-ce qu'elle a la cliente? Puis je dis, attends, je vais t'inquiéter parce que moi, j'ai diagnostiqué chez elle. Puis tu me diras si j'ai raison ou tort. Et dans, à 80-90%, j'avais raison. Et puis j'ai dit, mais tu vois, c'est drôle, je lui ai déjà dit ça, mais parce que je suis pas physiothérapeute et puis je suis pas en blouse blanche. Voilà. Et ce que tu dis là, c'est hyper intéressant parce que oui, on a envie d'apporter ça aux clients. Personnellement, par rapport à mes années de métier, bah, je sais que je peux peut-être apporter quelque chose sur l'aspect conseil physique ou conseil nutrition ou même mon expérience
de vie
ou comme ça. Mais après, est-ce que c'est vraiment mon rôle? Est-ce que je n'ai pas de nouveau trop donné aux clients? Trop y apporter d'intimité qui va finalement me coûter du temps sur ma vie privée? Et comment je me fais indemniser pour ça?
Donc, voilà, ça nécessite de créer une offre spécifique par rapport à un problème ou à un désir spécifique et créer un package, un accompagnement ou des choses comme ça. Mais c'est sûr que ça peut pas être, enfin c'est compliqué de mettre toutes ces choses dont tu viens de parler dans simplement un abonnement mensuel de classe de CrossFit par exemple. C'est sûr que ça doit faire partie, ça peut faire éventuellement partie d'un accompagnement, mais c'est vraiment spécifique avec tout un tas de points ou de choses spécifiques. Comme tu disais que dans les classes, c'est facile de, tiens, j'ai une douleur à l'épaule, bah, j'ai un programme spécifique que je peux t'accompagner sur 6 semaines avec une séance de PT avec moi, plus des petits exercices à faire à la maison. Je te donne également un élastique et puis une petite balle et tout. Bon, bah, tu vois, ça, c'est les choses, effectivement, que tes coachs, que nos coachs ou que tout le monde devrait pouvoir, enfin, s'il avait cet instinct aussi à la fois d'aider les gens, puis aussi à l'instinct, il y a là aussi l'instinct business. Je pense qu'il y a plein de trucs à développer de ce côté-là. Et c'est pour ça que je dis que la porte d'entrée, bah, que ce soit le CrossFit ou n'importe quel type de méthodologie par rapport à ceux qui nous écoutent, ça peut être des profs en pilates, du yoga, ça peut être n'importe quel type. Je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de leviers autres que le sport qui va nous permettre d'apporter des résultats plus rapides à nos élèves, quoi.
Oui, alors je suis assez d'accord. L'aspect nutrition ou l'aspect réhab ou blessure et tout, c'est tout à fait abordable. Je dirais maintenant l'aspect émotionnel là, que les personnes où moi je le vois, hein, je veux dire, je vois les adhérents, très rapidement j'ai capté qu'émotionnellement ils ne sont pas là ou capté des choses. Est-ce que c'est mon rôle d'aller dire, écoute, ça serait bien que tu fasses une séance avec moi, on peut parler spiritualité, je suis qui pour ça? Je suis rien, je suis une personne. Et après, bah, si tout d'un coup tu vas toucher, ça m'arrive de dire à la personne… Écoute, voilà, ça, aujourd'hui, je vois que ça ne va pas. Je me sens très tendu. Je vois que tu mets la pression. Je vois que tu n'as pas confiance en toi. Ah oui, comment tu as vu ça et tout? Tu débouches sur une discussion. Et après, tu vas lui dire, en fait, stop. Comment ça, le tarif, là, ça coûte mon nom de fond. Enfin, tu vois, quelle légitimité tu as? Tu ne l'as pas. Donc, c'est pour ça que je pense que l'aspect nutrition, réhab, oui, on peut très bien déboucher sur du personal trainer. L'aspect… plus, je dirais, spirituel, l'aspect plus échange, ça doit être un échange. Et puis, c'est de se dire, bon, bah, écoute, dans ce monde de fou, on a une demi-heure, si tu veux, on se boit un café. Et puis voilà, tu vois, moi, à l'inverse, quand je faisais du personal trainer à 100% dans le fitness, ça m'arrivait à un ou deux adhérents qui étaient fortunés. Je lui dis, écoute, je pense qu'on va arrêter le personal trainer, tu vas me payer un café, on va discuter une heure ensemble, parce qu'en fait, tu viens en séance de personal trainer, tu fais que de me parler. Je dois à chaque fois te pousser pour faire des exercices. Et puis les gens me disent, bah, tu t'en fous, tu te payes 8. Je ne m'en fiche pas parce que moi, si tu vas dire à des gens que tu fais des personnes à trainer depuis 6 mois et que physiquement, tu n'as pas évolué, bah, je passe pour un con. Mais ça m'est arrivé à dire à des adhérents, écoute, on arrête les personnes à trainer ou tu me donnes les 100 balles, on va manger de temps en temps et puis tu me parles de ta vie. Quoi. Parce que ça nous est tous arrivé, ces scénarios-là. Donc oui, mais je veux dire, après, c'est un peu l'aspect, je dirais… dès le moment que tu es en soin à la personne, je prends par exemple une coiffeuse ou une esthéticienne ou on glisse, enfin celle qui fait les ongles comme ça, c'est des psychologues des gens aussi. Hein.
Oui, oui, c'est sûr. C'est
voilà. Sûr. Est-ce que c'est pas notre. Je sais pas. C'est une bonne question, mais je pense pas que c'est ça.
Moi, j'ai eu des. C'est souvent à travers des échanges ou soit des conférences ou des webconférences que j'ai pu donner. Et en fait, les gens sont venus vers moi en disant ah, mais je ne savais pas que tu faisais ça. Alors, c'est vrai qu'on a toujours ce syndrome de l'imposteur en disant bah, moi, je n'ai pas d'études simplement par l'expérience, par rapport aux livres, des formations que j'ai fait, mais je n'ai pas de. Ouais, je n'ai pas la blouse blanche, je n'ai pas la crédibilité. Mais je me suis aperçu que simplement par rapport à mon histoire de vie, est-ce que j'avais pu un peu comprendre de l'être humain, je peux aider certaines personnes. Après, c'est sûr, ça nécessite de formaliser un petit peu le contenu et de savoir dans quelle direction on va. Si c'est juste effectivement boire un café, discuter, bah, ça peut nous arriver tous. Et puis aussi, c'est un peu notre, on va dire le métier qui veut ça. Mais je pense qu'il y a plein de trucs à creuser, à découvrir, à créer par rapport à des subtilités qui nous intéressent parce que voilà l'être humain le mouvement c'est important mais il y a plein de facettes moi je découvre aussi au fur et à mesure qui sont absolument quand tu commences à rentrer dans le truc tu dis ah ouais mais en fait je comprends rien du tout à l'être humain quoi tu vois et c'est ça aussi qui est fascinant avec l'être humain de manière générale c'est que voilà on peut partir dans beaucoup d'endroits différents quoi. Donc après, où est-ce que notre limite? Ça, je suis d'accord, c'est une réflexion qu'on doit aussi avoir.
C'est une réflexion qu'on doit avoir, et puis de quelle manière aussi on valorise ça aussi. Donc c'est ça, quoi.
En tout cas, c'était un superbe échange. Merci de ton riche parcours. Je pense que ceux qui ont écouté ont pris plein de notes, en tout cas, j'espère. C'est quoi, toi, ton... L'avenir du fitness, l'avenir du crossfit, l'avenir de la santé de manière générale, comment tu vois ça là, dans les 5-10 ans à venir? En sachant que les gens sont de plus en plus en surpoids, les gens sont de plus en plus obèses, sont de plus en plus stressés, malades. C'est toujours assez paradoxal quand je parle avec des pros comme toi où je me dis « putain, on a tout aujourd'hui pour on va dire, être en bonne santé ». Même s'il peut nous arriver des pépins, malheureusement. Mais c'est vrai que tu as l'impression que ce que tu fais, bon, voilà, t'aides certaines personnes, mais tu vois que le monde est en train de partir un peu en live. C'est quoi ton impression par rapport à ça?
Bah, je pense que de toute façon, il y a quand même de plus en plus de personnes qui se rendent compte que la santé, c'est important, puis de bouger, c'est important. Donc, je pense que du travail, on en aura encore. Je pense que le crossfit, bah, ça fait depuis 8 ans que j'ai ouvert, ça fait depuis 8 ans qu'on me dit que c'est un effet de mode, donc bah, la mode elle dure, donc tant mieux pour nous. De nouveau, hein, je ne dis pas que le fitness c'est pas bien, mais le crossfit c'est mieux. Je pense qu'il y a à manger pour tout le monde, mais je pense que l'aspect de s'occuper des gens, contact relationnel, il est plus important dans le crossfit, donc les gens peut-être viendront à la recherche de ça. Maintenant, je pense que d'une manière générale, il y a de plus en plus une scission qui se fait dans le monde. Il y a des personnes là qui sont là juste pour vivre et puis se dire ouais, de toute façon on s'en fout de la santé, de toute façon on va tous crever. Et puis ils en ont. Bon, moi j'ai pas une fibre écologiste énorme, hein, je veux dire, mais j'ai une sensibilité quand même. Mais j'essaie d'être cohérent. Mais je veux dire, il y aura à mon avis, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. Hein, c'est une passion chez moi, tout ce qui est neuro. Il y aura des gens hyper connectés, puis il y aurait des gens hyper pas connectés, quoi. Donc, je pense que le monde, d'une manière générale, il y aura deux chemins qui vont se faire. Et moi, je serai pas, évidemment pas dans le monde connecté parce que j'ai beaucoup de peine avec ça. Mais, tu vois, une petite parenthèse, ça m'embête, mais il avait raison quand même. L'humain, en fait, cognitivement, il fait que d'évaluer. On voit dans toutes les formations, même les formations, enfin voilà, ils diminuent les prérequis pour qu'il y ait quand même autant qu'il n'y ait pas un niveau d'examen trop faible. Et on voit que bah, maintenant, moi, je ne me suis pas du tout intéressé à ce ChatGPT, etc. Et tout. Je crois que je suis allé une fois dessus, j'ai rien compris. Je n'ai pas voulu me lancer, mais on voit que l'intelligence artificielle ne fait que d'augmenter et que l'humain fait que de diminuer. Et puis, un professeur en neuro disait, à un moment donné, il n'y aura pas d'autre choix que l'humain devra s'implanter des puces pour pouvoir concurrencer l'intelligence artificielle. On se dit, ouais, il a raison, mais ça fait hyper peur, quoi. Et je pense qu'il y aura une partie de la population qui dira, oui, ben, c'est pas le choix, il faut qu'on fasse ça. Il y aura une population qui sera hyper contre, voilà. Ben, je pense que dans le sport, ça sera la même chose. Il y aura des gens qui diront, bah, de toute façon, moi, j'en ai rien à foutre, on est là pour une durée déterminée, donc pourquoi m'embêter à pas aller bouffer de la merde, et puis etc., on va tous crever. Il y aura des gens qui diront, ok, bon, je m'intéresse à ma nutrition, donc je vais avoir une vie plus saine et tout. Donc, je pense qu'il y a une séparation qui se fait de plus en plus importante. Donc voilà, comment elle sera faite d'ici 10 ans, j'en sais rien, parce que tout va tellement vite. Mais c'est vrai que parfois, je me sens largué pour beaucoup de choses sur ce monde, quoi.
Il y a de quoi. Il y a de quoi quand on regarde un peu ce qui se passe, même en dehors de nos frontières. Il y a des fois, ouais, c'est voilà. On vit nous dans un. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je vis dans mon microcosme. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu à l'extérieur, des fois, tu te dis waouh. Et encore nous, bon, on commence à se faire vieux, nous, José. Mais je pense à nos enfants, nos petits enfants. Ou ouais, c'est voilà, c'est voilà. Dans quel monde on va, ça effectivement, ouais. Ça, l'avenir nous le dira.
Voilà, mais je pense que nous, on est privilégiés. En tout cas, moi, je me sens privilégié dans le sens où c'est qu'on a connu les débuts de la technologie. Quand on parle de certaines choses qu'on a connues enfin, on passe pour des dinosaures. Et puis en même temps, bon, on a suivi toutes cette évolution. Mais je pense que maintenant, même si on a quand même été, enfin, dans ma génération, cette génération qui avons suivi cette évolution, moi, j'ai connu le premier ordinateur, voilà, les joysticks, les premiers téléphones portables, etc. Enfin, voilà. On a suivi tout ça, mais maintenant ça va tellement vite qu'on commence à être dépassé. C'est ça qui est inquiétant, c'est que tu te dis à quel moment on sera complètement dépassé. On me semble qu'on sera dépassé de plus en plus vite. Et puis voilà. Et puis moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la consommation, le monde de la consommation. On consomme les humains, on consomme les relations, on consomme les gens comme on consomme. On zappe, comme je disais au début d'entretien, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Qui est toujours aimé les relations humaines, qui est toujours privilégié la communication. Voilà, c'est que du jour au lendemain, tu peux tout zapper, tu peux tout jeter, tu peux tout. Je veux dire, et je trouve qu'on consomme, on est une société de consommation à tout niveau, mais alors vraiment à tout niveau, consommation relationnelle. Même nous, on le voit, hein, nos adhérents, je veux dire, j'ai des adhérents qui juraient que par nous, qu'on les avait ramenés à la santé et tout, et puis c'est le même adhérent qui va dans une salle concurrente, et il a bien le droit, mais il se contente pas d'aller dans sa salle concurrente, il se contente de critiquer tout ce que t'as fait avec, etc. Donc c'est des fois un peu dur dans ce monde où on s'en fout. Voilà. Et c'est vrai, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est à la vitesse à laquelle on est de plus en plus connecté et l'humain est de plus en plus seul finalement.
Oui, ça, c'est le paradoxe, ouais. Paradoxe.
Une chose à une autre, comme ça, du jour au lendemain. C'est ça qui est un peu inquiétant. Au niveau relationnel, je parle surtout.
Est-ce que tu as une ressource à nous partager, un livre que, je sais pas, que tu offres à tous tes coachs ou, enfin, voilà, un podcast ou une chaîne YouTube que tu regardes, qui pourrait aussi intéresser les professionnels qui écoutent?
Alors, je lis énormément ces temps. Je pourrais le prendre. Maintenant, je suis en train de finir le livre de Goggins, là. Je ne sais pas si tu connais. Je peux vite, si tu me donnes 30 secondes, je vous le montre.
Ouais, vas-y.
Voilà. Voilà.
Parfait.
Alors, là, il y a deux livres que je conseille vraiment qui sont pour ceux qui réfléchissent beaucoup, qui ont le cerveau et tout. C'est Je pense mieux et Je pense trop.
Ah, ok, ouais. Je ne connais pas ceux-là.
Pour ceux qui ont une hyperactivité mentale et puis qui n'arrêtent pas de réfléchir et qui ne sont pas toujours à l'aise, c'est vraiment deux livres de référence. C'est une psychologue française, en plus, Christelle Petit-Coin, qui okay. est géniale. Livre que je viens de finir, je ne l'ai pas trouvé, mais il y a la suite, là, j'ai trouvé la suite, c'est Sapiens, que je recommande vraiment, oui. qui est génial. Et puis, je suis en train de lire le deuxième, qui est Homo Deus, là, voilà, ouais. hyper intéressant, là. Puis là, celui que je suis en train de finir maintenant, qui est vraiment assez incroyable. C'est Plus rien ne pourra me blesser. C'est David Goggins. C'est un best-seller du New York Times. C'est un gars. C'est le seul gars aux États-Unis qui a été Navy SEAL, Marines et je ne sais plus quel. Voilà, il a été vraiment. Et c'est le gars qui a été nommé l'homme un des plus fit aux États-Unis parce qu'il court des ultra-marathons, des ultra. Et c'est un mec qui était parti de rien. Il faisait 140 kilos. Okay. Ici, un père qui le battait et tout, donc c'est une belle histoire où le gars, il s'est forgé un mental, il est parti de rien, il s'est forgé un mental. Alors, ça va un peu loin dans ce qu'il fait. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des livres que je recommande. Podcast, ben ouais, c'est toujours lié au CrossFit. Moi, j'aime bien mon ami Élie Margerin, Élie Shaker Show, là, c'est toujours assez sympa. Et puis, le nom Stronger Fist, Stronger Things avec Julian Testor, Willy George et Mims et Thibaut Salinet qui font Go Wod. Je trouve hyper intéressant. On parle de notre métier, puis ça, moi je trouve que d'écouter des fois justement ces podcasts, ça permet de nous amener de la ressource dans nos box, parce que souvent on se sent seul dans nos box, et puis de dire tiens, ils font ça comme ça, donc ça aide pas mal. Et puis voilà quoi, pour résumer, prenez le temps c'est ce que je fais maintenant, prendre le temps d'avoir le temps, c'est-à-dire de prendre le temps de lire, de prendre le temps d'écouter des podcasts, de prendre le temps de prendre soin de soi quoi. C'est ça que je peux conseiller, qui est vraiment hyper important, parce que finalement, un médecin malade ne peut pas soigner. Donc.
Eh ben, merci en tout cas pour ce bel échange. Ravi d'avoir pu partager un peu de temps et merci de ton temps. Merci tout le monde. J'espère que vous avez aussi apprécié cet épisode. Pensez à mettre un petit 5 étoiles et un super commentaire à José. Merci José. Peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir, nous, dans une formation ou autre. En tout cas, je me ferai un plaisir, si je vais du côté de Lausanne, de venir woder et puis peut-être de voir ce nouveau projet aboutir. Merci tout le monde. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel invité. Salut.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.